I have great pleasure in.
J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue au Premier ministre et ministre de la Défense, du Développement de l'Information et des Sports de la Jamaïque, Son Excellence Portia Simpson-Miller, et je l'invite à prendre la parole. Madame la Première ministre, la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de voir un fils de la Caraïbe qui a une telle richesse d'expérience, de tels talents diplomatiques, préside à la 68e session de l'Assemblée générale. Je félicite le secrétaire général, Son Excellence Ban Ki-moon, de ses efforts sans relâche pour promouvoir la paix internationale et le développement, et je le remercie de son rôle chef de file exemplaire. Le thème de notre débat, le programme de développement pour l'après 2015, préparons le terrain, mais le développement au cœur même des activités des Nations Unies nous amenant à élaborer un cadre de développement ambitieux dans l'intérêt de tous. Nos délibérations, nos actions à la présente session doivent donc envoyer un message clair d'espoir aux nombreux millions de personnes qui vivent dans la pauvreté et l'inéquité. Redoublons d'efforts pour lutter contre le fléau qu'est la pauvreté. C'est un héros national de la Jamaïque, Marcus Mosiah Garvey, qui a dit justement que la pauvreté, c'est l'enfer. Ce n'est pas une vertu, c'est un crime. Être pauvre, c'est avoir faim sans espérer de nourriture. C'est être malade sans espérer avoir des médicaments. C'est être fatigué sans pouvoir se reposer, c'est être nu sans l'espoir de vêtements, c'est être méprisé et sans réconfort. Être pauvre, c'est être un sujet prédestiné au crime et à l'enfer, Monsieur le Président. Un trop grand nombre des citoyens du monde vivent cette réalité. Nous devons honorer la déclaration du millénaire de l'an 2000 qui nous a confié la responsabilité de tracer la voie pour parvenir au développement, un développement étayé par l'engagement pour éliminer la pauvreté grâce à un partenariat mondial. Alors que la date butoir pour la réalisation des OMD s'approche, dans moins de 1000 jours, nous connaissons de nombreux défis, y compris la crise financière et économique mondiale, le changement climatique, les catastrophes naturelles, des niveaux élevés de dette et des conflits. Avec le temps limité qui reste, il est impératif pour nous d'accélérer nos efforts. Sinon, ce serait desservir nos peuples. Alors que nous tournons vers le cadre de développement de l'après 2015, nous devons également terminer la tâche non achevée pour réduire la pauvreté extrême et la faim, combattre le VIH-Sida, faire cesser et inverser l'évolution du paludisme et de la tuberculose, renforcer l'accès aux soins de santé et de la reproduction. Monsieur le Président, dans nos délibérations sur le programme de développement de l'après 2015, nous devons définir comment au mieux nous pouvons forger un plan mondial qui soit universel, axé sur l'être humain et qui trouve un équilibre entre le besoin d'une croissance économique robuste, la création d'emplois, l'élimination de la pauvreté, et le besoin tout aussi important de préserver et protéger l'environnement. Nos délibérations doivent prendre en compte les besoins particuliers des groupes désavantagés de pays, en particulier le groupe vulnérable des petits États insulaires en développement et qui se débattent face au changement climatique, à l'élévation du niveau des mers, et qui ont besoin de faire face à des nouveaux problèmes économiques et sociaux. Nous sommes heureux que l'attention internationale se porte sur les PID en 2014, quand la communauté internationale observera l'année internationale des PID. Le succès de la conférence de Samoa en 2014 dépendra d'un soutien international vigoureux et de l'intégration des problèmes des PID dans toutes les activités du système des Nations Unies. Une approche durable pour le développement devrait inclure le handicap dans le programme de développement de l'après 2015 et il devrait veiller aussi à la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles et des ressources financières supplémentaires pour soutenir la lutte mondiale contre le VIH-Sida. Il y a une autre menace majeure qui se pose au développement, c'est la fréquence élevée des accidents de la route. J'appelle tous les pays à s'atteler avec sérieux au défi de réduire les blessures et les décès résultant des accidents de la route en tant que question politique importante. Monsieur le Président, il est nécessaire d'avoir un financement durable et novateur pour étayer nos efforts pour le développement. Et les réformes doivent être entreprises de façon à aider les pays en développement en revenu intermédiaire pour surmonter leurs nombreux défis. Ces réformes doivent traiter de la soutenabilité de la dette publique et examiner le système de classement des pays en développement en revenu intermédiaire pour veiller à ce que l'on utilise des mesures de développement plus idoines, plus appropriées. Monsieur le Président, il est urgent d'accorder une plus grande attention à la création d'emplois, y compris pour les jeunes au chômage. Je sais que l'OIT a estimé que le chômage mondial passerait à 202 millions cette année. Cette statistique alarmante est occultée par les estimations de travailleurs pauvres qui sont d'environ 869 millions, 400 millions d'entre eux vivant dans la pauvreté extrême. La croissance du chômage se trouve dans les poches urbaines et rurales de pauvreté et de dénuement social. Des investissements accrus dans les pays en développement axés sur la création d'emplois est un moyen qui doit être utilisé de façon active. Dynamique. Monsieur le Président, nous devons fournir plus d'aide aux populations pour s'en sortir au quotidien, car la croissance, la prospérité sont réparties de façon inéquitable et les plus vulnérables risquent de passer au travers des mailles du filet, d'être oubliés, ne pouvant pas avoir une qualité de vie décente. Les régimes de protection sociale devraient fonctionner de façon efficace pour pouvoir aux besoins fondamentaux et encourager les groupes ciblés à poursuivre une plus grande optimisation pour favoriser une plus grande inclusivité. Des pays comme la Jamaïque ont mis en œuvre des stratégies pour traiter de la dette et encourager la croissance et l'investissement, mais il est critique que les institutions financières internationales, multilatérales, et ainsi que les autres partenaires du développement reconnaissent l'importance des mécanismes de protection sociale, Monsieur le Président. Alors que nous constituons le programme pour le développement pour la prochaine décennie et au-delà, nous le faisons au nom d'un groupe qui m'est cher à mon cœur, les enfants. L'avenir que nous voulons, l'avenir que nous forgeons, l'avenir auquel nous parviendrons sera notre héritage que nous laisserons à nos enfants. Nous devons redoubler d'efforts pour sauvegarder leurs droits, pour renforcer le développement de nos enfants. Malgré les ressources limitées, la Jamaïque continue de faire tous les efforts possibles pour honorer ses obligations vis-à-vis de nos enfants. Nous condamnons la violence, les abus contre les enfants et nous réaffirmons notre engagement de sauvegarder et de promouvoir le droit des enfants partout. Aucun enfant ne doit être laissé de côté. Monsieur le Président, la question de la traite des êtres humains est de la plus haute importance. Je suis toujours soucieuse des horreurs et des maux de l'esclavage dans l'histoire et aujourd'hui. Je suis particulièrement émue de savoir que des jeunes filles, des jeunes garçons, au quotidien, sont arrachés de leur foyer familial, amenés dans des terres inconnues, vivant dans des conditions qui ne sont pas humaines et contraintes d'exécuter des actes indicibles. Nous devons être unis dans nos efforts pour éliminer ce fléau transfrontalier et mettre un terme à la traite des êtres humains, des femmes, des hommes et des enfants. Nous devons veiller à ce que, en cette époque moderne, nous ne voyons pas ressurgir l'esclavage. Nous devons y mettre un terme où que cela existe, où que ce soit. Et nous devons traduire en justice les coupables. Nous devons en protéger les générations à venir. Plus jamais, nous devons voir quelque chose qui ressemble à l'esclavage et qui soit toléré où que ce soit. Monsieur le Président, la Jamaïque est fière de mener les efforts en collaboration avec les pays de la CARICOM et les membres de l'Union africaine pour avoir un mémorial permanent aux victimes de l'esclavage et au commerce des esclaves transatlantiques ici érigé aux Nations Unies. L'inauguration de ce mémorial permanent au début de la semaine et indique un nouveau chapitre important dans notre voyage pour honorer la mémoire de millions d'hommes et de femmes qui ont été soumis à des atrocités indicibles. Quand j'étais présente à l'inauguration, on m'a rappelé les paroles du maître du reggae Bob Marley qui a dit les anciens pirates m'ont volé, m'ont vendu un navire marchand quelques minutes après m'avoir saisi d'un puissant fond. Mais mes mains, qui ont été traitées par Dieu Tout-Puissant, je les transmets à la génération avec fierté. Fin de citation. Nous sommes reconnaissants des contributions généreuses pour l'érection de ce mémorial. Nous encourageons la communauté internationale à continuer de fournir un soutien financier pour cette initiative importante. Monsieur le Président, la Jamaïque soutient l'appel lancé pour une discussion internationale, pas dans l'affrontement sur la question des réparations. Nous soutenons pleinement l'initiative pour une déclaration de la décennie des personnes d'origine africaine, Monsieur le Président. La quête du développement ne peut pas être complète si on n'accorde pas l'attention idoine à la paix et à la sécurité. Mon cœur est avec les familles des victimes de l'attaque effrayante au Kenya. Le crime organisé international nuit aux économies, remet en question les capacités des États de faire face à ces menaces. Aucun pays n'est à l'abri des effets directs ou indirects du fléau du crime transnational. Une collaboration accrue est nécessaire pour y faire face, pour faire face à ces menaces qui pèsent sur le développement de l'être humain. À cette fin, nous félicitons de l'ouverture récente pour signature du traité du commerce des armes, qui est un traité jalon au juin de cette année, qui représente un des nombreux pas que la communauté internationale doit prendre pour lutter contre le terrorisme, le crime, la violence. Et la Jamaïque entreprend des efforts actuellement pour ratifier le traité du commerce des armes. La coopération bilatérale et régionale, grâce à la mise en commun d'informations, grâce au renforcement de capacités et à l'assistance, font partie intégrante de la lutte pour traiter du crime, de la violence et des problèmes sécuritaires. Nous sommes très préoccupés par les souffrances du peuple de Syrie. Et à l'instar de la communauté internationale, nous condamnons l'utilisation des armes chimiques. Nous nous félicitons des mesures positives récentes entreprises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La Jamaïque est attachée à une solution juste, durable, pacifique à la situation qui prévaut au Moyen-Orient. Monsieur le Président, je me rapproche de mon pays et j'en viens à l'embargo économique et commercial contre nos voisins, contre notre voisin, Cuba, qui a causé des difficultés indicibles à son peuple. Cela n'a plus lieu d'être. Au XXIe siècle, nous répétons notre appel lancé pour mettre un terme à l'embargo contre Cuba et contre les mesures extraterritoriales qui ciblent des pays tiers. Monsieur le Président, la Jamaïque n'a jamais perdu espoir quant à l'influence pour le bien qui existe ici aux Nations Unies. Nous sommes bien conscients que les espoirs, les aspirations des peuples nous sont confiés. À ce carrefour de l'histoire où nous nous trouvons, redoublons nos efforts pour le partenariat qui est le fondement même de cette grande institution. Et je m'appuie sur les paroles du dirigeant des droits Martin Luther King quand il a dit « La mesure ultime d'un homme ne se perçoit pas quand il vit dans le confort et l'aisance, non, quand il est face aux défis et quand il est dans l'adversité. » Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les défis, les espoirs de notre époque sont assurément grands. C'est à nous, à notre génération, qu'il incombe de prendre position. Nous nous devons d'agir maintenant. Je vous remercie.